en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, il est un académicien qui fut membre de trois académies à la fois, membre de l'Académie des sciences à 25 ans, entre parenthèses professeur de physique mathématiques au Collège de France à 26 ans, il devient dans la foulée membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres avant de faire son entrée à l'âge de 82 ans à l'Académie française, devenant ainsi l'académicien élu à l'âge le plus avancé. En habit vert, vous propose de vous intéresser à la vie de Jean-Baptiste Biot, à la fois mathématicien, physicien, astronome au XIXe siècle. Jeune savant, peut-être trop jeune, Jean-Baptiste Biot fut vertement critiqué par ses confrères de l'Académie des sciences, comme François Arago, ou comme Charles Sainte-Beuve de l'Académie française, un charlatan travailleur, diront d'autres. Il aura pourtant laissé son nom à plusieurs lois physiques, la loi de Biot et Savart notamment, premier à démontrer en optique que les liquides pouvaient dévier à droite ou à gauche, le plan de polarisation de la lumière. Il laisse aussi derrière lui un traité d'astronomie de renommée internationale. Notre invité, Jean-Paul Poirier, membre de l'Académie des sciences, a consacré une biographie à Jean-Baptiste Biot, la première biographie jamais réalisée sur ce personnage oublié de l'histoire des sciences. Jean-Paul Poirier, bonjour.
Bonjour Élodie.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes physicien émérite de l'Institut de physique du Globe de Paris, membre du Bureau des longitudes, comme l'a été jadis Jean-Baptiste Biot. Pour réaliser cette biographie très documentée, vous vous êtes tourné sur les correspondances de Jean-Baptiste Biot, conservées aujourd'hui à l'Institut de France et aux archives de l'Académie des sciences. Et on devine, à travers votre ouvrage, que vous cherchez à réhabiliter Jean-Baptiste Biot. Alors selon vous, comment sont nées ces critiques qui disaient de lui qu'il était un opportuniste s'octroyant le travail des autres ?
Alors, c'est un problème. En fait, je pense qu'une partie de sa réputation, déjà, vient de Sainte-Beuve, qui disait, un peu perfide comme à son habitude, que c'était un savant de premier plan, mais au deuxième rang. En fait, Biot a souffert, je crois, c'est mon interprétation, de sa longue querelle, controverse et finalement amitié, malgré tout, avec Arago. Parce que Arago était un homme, c'était, nous dirions maintenant, médiatique. C'était un savant qui avait fait une astronomie populaire, qui était vraiment populaire, il était très populaire. Il était député des Pyrénées-Orientales, il a été même pendant très peu de temps chef d'État, au moment de la Révolution de 1848. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, d'intelligence, mais qui ne suivait pas ses affaires. Il lançait quelque chose et puis il ne s'y intéressait plus. Il était un peu papillonnant, dirions-nous. Biot, au contraire, était sérieux, travailleur. D'aucuns diraient maintenant ennuyeux. Bon. Et donc, en comparaison avec Arago, avec qui il a eu plusieurs petits accrochages, eh bien, bon, il ne faisait pas le poids. Ce n'était pas quelqu'un d'aussi populaire. Arago a un boulevard, Biot a une petite rue dans le 18e arrondissement. Bon, voilà. Mais cela dit, Biot était probablement un bien meilleur physicien qu'Arago. Arago avait des idées, mais il fallait quelqu'un d'autre pour les poursuivre. Et quand Biot a poursuivi certaines de ses idées plusieurs années après, Arago s'est fâché. Il disait « mais c'est à moi ». Oui, mais d'accord, mais il n'avait rien fait dans l'intervalle.
Alors, on va y revenir au cours de cette émission. Jean-Baptiste Biot est élu à l'Académie des sciences, il a 25 ans. Donc, je crois que François Arago aussi est élu très jeune à l'Académie des sciences.
C'est Biot qui l'a fait élire.
Alors, au début, puisqu'on va rester peut-être sur ces deux personnages, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Au début, ils partent ensemble pour une expédition, faire la prolongation de la Méridienne en Espagne. Au début, les relations sont plutôt sympathiques.
Tout se passe très bien.
Alors, à quel moment ça commence à grincer des dents du côté de François Arago ?
Bon, après ça, au retour, Biot l'a fait élire et a agité pour le faire élire à l'Académie des sciences. Et puis, il y a eu plusieurs petites choses. Essentiellement, je crois, ce qui a fait démarrer la querelle, c'est que Arago s'était aperçu, alors je ne rentre pas dans le détail, mais en tripotant des lames de quartz dans la lumière, etc., qui voyait des couleurs, il a appelé ça la polarisation chromatique, et puis c'est tout, il s'en est désintéressé. Biot, lui, quelques années après, a repris ça et a compris. A compris, a écrit toute la théorie, etc. Et il, lui, a compris qu'il y avait, par exemple, un quartz droit et gauche. Tous les minéralogistes savent ça, mais ils ne savent pas que c'est Biot qui l'a fait. Et donc, suivant la façon dont s'est orientée la molécule dans le cristal de quartz. Bon, alors après ça, ça a été assez mal. Et puis, ils se sont Évidemment, il y avait des postes importants à pourvoir. Et alors, ils étaient tous les deux candidats, en principe. Et puis finalement, grâce à des amis, à la famille, à Madame Biot, à Madame Arago, qui ont et là été essayés d'arrondir les angles, ils ont signé une espèce de traité, disant voilà, Arago se présentera au bureau des longitudes et Biot ne se présentera pas. Par contre, au moment de secrétaire perpétuel, Biot se présentera, mais Arago se retirera. Bon, voilà, de l'Académie. Et donc ça a marché comme ça. Arago a été élu au bureau des longitudes, Biot s'était retiré. Et puis au moment de l'élection du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Arago a dit « Oh, écoutez, moi, je me retire parce que j'ai beaucoup trop d'autres choses à faire. D'ailleurs, mon ami Biot est dans le même cas, il a aussi beaucoup d'autres choses à faire. » Il lui avait savonné la planche de façon remarquable et Biot n'a pas été élu, bien sûr. Bon, remarquez, c'est Fourier qui a été élu, Fourier le méritait amplement. Bon, mais c'est un autre problème.
Donc c'est intéressant, au travers de cet exemple de Jean-Baptiste Biot, on voit bien aussi les relations politiques et diplomatiques au sein d'une académie. Revenons peut-être un peu en arrière sur les travaux de Jean-Baptiste Biot, les premiers travaux qu'ils l'ont fait connaître. Notamment, donc, il est missionné pour se rendre dans un petit village dans l'Orne qui s'appelle L'Aigle et pour laquelle donc, il va dans ce village et va travailler sur des météorites tombées du ciel. Et on se dit, tiens, voilà des pierres qui tombent du ciel.
Alors, je vous reprends, les gens de L'Aigle ne seraient pas contents, c'est une petite ville.
Petite ville, pardon.
Bon, voilà, c'est l'Académie. Il venait d'être élu il y a très peu de temps et le président de l'Académie, qui était le grand chimiste Chaptal, qui était également ministre de l'Intérieur, l'a envoyé sur les lieux. Et Biot, là, a fait, je ne rentre pas dans le détail, nous en avons déjà parlé une fois, mais Biot a fait une enquête absolument remarquable. C'était une enquête, de certains ont comparé à une enquête de juge d'instruction. Il a été sur les lieux, il s'est renseigné, il a été d'abord le plus loin possible pour voir si on avait entendu, si qu'on avait vu, etc. Il interrogeait tout le monde, il interrogeait les passants, un petit chaudronnier avec sa tôle sur le dos qui avait 10 ans qui passait. Il interrogeait les gens distingués, il interrogeait les instituteurs, il interrogeait les paysans. Et puis, il s'est approché de l'endroit où c'était tombé. Il a pu refaire exactement le plan de tous les endroits où les morceaux de météorites étaient tombés. Il en a récupéré des morceaux et il a fait un rapport qui est une merveille que l'Académie des sciences, d'ailleurs, a réédité au moment du bicentenaire de la chute.
Et c'était donc en 1803.
C'était en 1803.
Il participa aussi aux toutes premières ascensions scientifiques en ballon. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Ah oui, là, c'était important parce que Biot s'intéressait beaucoup comme à tout ce qu'on pouvait mesurer à l'époque. C'était un physicien. Et il y avait le problème du champ magnétique terrestre. Et certains pensaient qu'on mesurait le champ magnétique terrestre, mais certains pensaient que son intensité diminuait lorsqu'on s'élevait en hauteur. Alors, Saussure, à Genève, avait fait l'ascension du Mont Blanc. Il avait eu l'impression que ça diminuait un petit peu. Et alors, l'idée, c'était de monter en ballon pour voir très haut. Et alors, il est monté avec Gay-Lussac. Et ils ont fait une manip que je ne décrirai pas ici parce que c'est un petit peu compliqué, mais qui était difficile. Difficile et il fallait de l'astuce pour arriver à en sortir quelque chose. Mais ils en ont sorti quelque chose. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence considérable. Ils étaient montés jusqu'à à peu près 4000 mètres, etc. Mais ils étaient deux dans le ballon. Donc, ils sont redescendus sans encombre et ils ont décidé qu'il n'y en avait qu'un seul qui remonterait parce que ça ferait moins lourd dans le ballon. Ils pourraient monter plus haut. Et bon, il s'est trouvé que c'est Gay-Lussac qui est remonté. Il est monté jusqu'à 6000 mètres. Et il n'a rien vu. Et d'ailleurs, effectivement, on pense maintenant qu'il n'était pas possible qu'il voie quelque chose. C'était encore trop près pour qu'on voie vraiment... Personne n'était monté aussi haut à l'époque que Gay-Lussac. Bon.
Alors, dans votre ouvrage, à la page 91, vous citez les premières lignes du mémoire co-signé par Jean-Baptiste Biot et Alexandre d'Humboldt sur les variations du magnétisme terrestre à différentes latitudes. Alors, je lis ces quelques lignes et après vous pourrez nous les commenter. La recherche des lois du magnétisme terrestre est sans doute une des questions les plus importantes que les physiciens puissent se proposer. Les observations déjà faites sur cet objet ont découvert des phénomènes si curieux que l'on peut s'empêcher de chercher à résoudre les énigmes qu'il présente. Mais malgré les efforts tentés à ce jour, il faut avouer avec vérité que nous ne savons absolument rien de leur cause.
Eh bien, c'est vrai. Et vers les années 1920 ou 30, Einstein disait « L'origine du champ magnétique terrestre est un des grands problèmes non résolus de la physique ». Et ce n'est que dans les années 1950 qu'on a commencé à comprendre. Donc Biot comprenait qu'on ne comprenait pas, il avait raison. Il a d'ailleurs trouvé une façon de le décrire, l'origine, de façon qui était extrêmement astucieuse et qui préfigurait ce qu'a fait Gauss une trentaine d'années ou une quarantaine d'années plus tard en Allemagne. Donc, il voyait que le champ pouvait être compris comme s'il y avait un tout petit aimant tout à fait au centre de la Terre et qui donnait le champ magnétique et qui permettait de calculer l'inclinaison de l'aiguille aimantée à toutes les latitudes, etc. Et donc de retrouver, de comprendre les expériences, les observations de Humboldt.
Alors, on présente toujours Jean-Baptiste Biot comme étant astronome. Était-il géophysicien et astronome ou géophysicien ou astronome ?
Il était... Bon, c'était un physicien. On ne dirait pas géophysicien, d'ailleurs on ne le disait pas à l'époque. Il s'est intéressé au magnétisme terrestre, non pas parce que c'était terrestre, mais parce que c'était du magnétisme et que c'était un problème. Il était physicien. Astronome, il l'a été. Il n'a jamais été astronome pratiquant. Il n'a jamais été dans un observatoire, par exemple. Mais il a fait des mesures astronomiques, en particulier quand la prolongation de la méridienne en Espagne. Il était professeur d'astronomie à la Sorbonne et il a écrit un traité d'astronomie dont vous avez dit d'ailleurs qu'il avait été, même que les Anglais, ce qui n'est pas peu dire, considéré comme un ouvrage important. Mais il n'a jamais été un praticien de l'astronomie.
Parmi ses recherches, toujours en tant que physicien, il s'intéressa aussi à la propagation de la chaleur dans les solides, à l'électricité voltaïque, et donc vous disiez aussi à l'électromagnétisme naissant. Mais la propagation de la chaleur, là aussi, voilà un sujet intéressant.
Alors ça, c'était quelque chose d'intéressant, et alors on lit à juste titre à ce sujet le nom de Fourier, qui a trouvé les lois de propagation de la chaleur, et qui sont tout à fait, personne ne songe à lui retirer le mérite. Mais Biot, un petit peu avant, avait essayé de comprendre en faisant des expériences très astucieuses. Il avait une barre de fer coudée qui, par un côté, plongeait dans de la braise, dans un fourneau pour monter la température. Il avait des petites cavités qu'il avait remplies de mercure dans lesquelles il mettait des thermomètres, etc. Et il regardait le temps qu'il fallait pour que la température se stabilise le long de la barre, etc. Et il en avait tiré une loi, d'ailleurs, qui est tout à fait raisonnable, mais dans un cas particulier, voilà. C'était une loi qui marchait dans un cas particulier parce qu'il fallait le diamètre de la barre, le périmètre, etc., dont il n'avait pas tenu compte, mais c'est parfaitement correct. Et ça, il avait envoyé ça à Fourier, et Fourier, lui, s'est mis au travail, il a fait quelque chose d'infiniment, évidemment, plus complet et meilleur, et qui reste toujours, les équations de Fourier sont toujours actuelles.
Alors, on l'entend bien, Jean-Baptiste Biot était un touche-à-tout. Est-ce que c'était l'époque qui voulait ça, ou est-ce que c'était vraiment la spécificité de Jean-Baptiste Biot ?
Bon, je pense que l'époque voulait ça un petit peu, certainement. Mais lui, il s'intéressait, au début, il s'est intéressé à tout ce qui arrivait, c'était les nouvelles choses. Bon, en particulier l'électricité voltaïque, il a fait quelque chose alors que très vite, il était rapide. Bon, mais très rapidement, il a trouvé son domaine essentiel d'activité qui était l'optique. Et l'optique, et en particulier les problèmes de polarisation de la lumière.
Et on va en venir dans quelques instants, après une courte pause, si vous le voulez bien. À tout de suite.
Découvrez les lettres que Marcel Proust, préparant ses romans, écrivait à Émile Malle de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Malle sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail.
Suite de notre émission En habit vert, en compagnie de Jean-Paul Poirier, nous parlons de Jean-Baptiste Biot, né en 1774, décédé en 1862. Il aura donc vécu 88 ans quand même, on ne l'a pas précisé. On en reparlera peut-être à la fin de cette émission. Vous avez donc rédigé la biographie de Jean-Baptiste Biot, la première. Jean-Baptiste Biot, un savant méconnu, paru aux éditions Hermann, Histoire des sciences. Revenons, si vous le voulez bien, Jean-Paul Poirier, à l'une de ses œuvres importantes, qui est le travail dans l'optique. Au tout début de cette émission, vous disiez que Arago avait commencé à travailler dans ce domaine et que Biot avait repris ses travaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Certainement. Donc c'est vrai qu'Arago avait commencé. D'ailleurs, il s'était un peu fâché parce qu'il avait dit un jour à Biot, mais pourquoi vous êtes-vous occupé d'optique ? Alors Biot lui avait dit, mais écoutez, je ne pensais pas que la science fût en régie. Chacun ses plates-bandes, ce n'était pas son idée. La polarisation de la lumière, c'est-à-dire que la lumière vibre dans un plan donné, avait été découverte essentiellement par un camarade de polytechnique de Biot, qui était Malus, et qui est mort malheureusement trop tôt, effectivement. Donc c'était dans l'air du temps, et tout le monde s'y intéressait. Biot s'y est intéressé, et il a travaillé beaucoup dans le cadre, parce que c'était comme ça, encore une fois à l'époque, c'était, on pensait, dans le cadre de la théorie de Newton de la lumière, c'est-à-dire d'une lumière corpusculaire. C'était des molécules de lumière. Et finalement, ça marchait assez bien. On arrivait à faire des... C'était plus compliqué, on faisait des équations un peu compliquées, mais enfin, ça marchait, on pouvait rendre compte des phénomènes. Donc, il s'est intéressé à donc, ce phénomène de la polarisation chromatique que Arago avait mis en évidence, mais n'avait pas travaillé. Et il a compris que, effectivement, suivant les échantillons de quartz qu'on prenait, eh bien, il déviait le plan de polarisation de la lumière vers la droite ou vers la gauche. Et maintenant, on sait, et d'ailleurs, il a compris lui aussi, que c'est parce que le quartz est formé, le cristal de quartz est formé d'hélices de tétraèdre SiO4 et qui tourne dans un sens ou dans l'autre, comme un escalier à vis qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Et ça donne des propriétés vis-à-vis de la lumière qui sont effectivement tout à fait différentes. Alors, il s'est beaucoup intéressé à ça et par la suite, il a pensé... Et ça, c'était, comment dirais-je, un des effets secondaires positifs de la théorie de la lumière, qui n'était évidemment pas la bonne. Le fait que comme c'était matériel, c'était des molécules de lumière, ça pouvait interagir avec la matière de façon assez compréhensible. Et donc, pour lui, c'était une sonde qui permettait de sonder un peu les propriétés chimiques de la matière. Ce que les chimistes refusaient complètement, d'ailleurs, à l'époque. Il était en colère contre les chimistes qui disaient, mais enfin, ils ne veulent pas comprendre que ça peut être très important. Et de fait, c'était très important, puisqu'il s'est aperçu qu'il y avait des liquides qui déviaient la lumière à droite ou à gauche. Et ça donc, c'était pas des cristaux, ça dépendait de la forme de la molécule. C'est lui qui a trouvé les mots dextrovir ou lévovir, qui permettent de... Il a, par exemple, un exemple, l'inversion du saccharose. C'est lui qui a trouvé ça aussi. Le saccharose, c'est-à-dire le sucre ordinaire, qui dévie le plan de la lumière à gauche, ou à droite, j'ai oublié. Bon, et lorsqu'on le met avec de l'eau et un peu d'acide, ça se transforme en glucose et en lévulose et qui dévie dans des sens différents. Et comme il y en a un qui est plus fort que l'autre dans le sens inverse du saccharose, eh bien, ça s'inverse. Alors, il a utilisé ça pour dire on peut s'en servir pour doser des solutions sucrées. Et c'était important pour l'industrie sucrière. Donc ça, c'est quelque chose, et les lois de la polarisation rotatoire des liquides, ce sont des lois de bio. Il a parfaitement... mis ça de façon parfaitement claire en loi applicable.
Alors, au cours de votre ouvrage, on comprend bien ce souci entre scientifiques de se réclamer la paternité de découvertes. Et alors, à un moment donné, les choses tournent de la manière suivante, c'est lorsque la photographie arrive, donc Arago, alors secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences, présente en sciences publiques au sein de son académie le daguerréotype. Et puis, quelque temps après, Fox Talbot, anglais, réclame la paternité de cette découverte. Et c'est donc Bio qui va effectivement remettre les choses un peu en cause.
Oui, oui. Bon, alors d'ailleurs, disons tout de suite, à cette époque-là, Bio, depuis 1840, était réconcilié. Enfin, la paix avait été faite entre Bio et Arago. Donc Arago, effectivement, a présenté à l'Académie des sciences, avec un succès tout à fait remarquable, les daguerréotypes de Daguerre.
En 1839.
Voilà. Fox Talbot avait trouvé quelque chose de très astucieux également, qui était de faire des choses sur papier, et non pas avec des plaques de verre, etc., et de faire des négatifs, et on pouvait refaire des positifs à partir des négatifs, c'était très astucieux, il appelait ça le calotype. Et Bio, là, a immédiatement dit « Oui, bon, écoutez, moi, je trouve que ce que vous faites est extrêmement intéressant, etc. » Il a d'ailleurs correspondu longuement avec Talbot, mais il a dit « Bon, Daguerre a la priorité. » Ce que, d'ailleurs, Talbot n'a pas contesté, à vrai dire. Il n'y a pas eu de vrai problème à ce sujet-là. Mais il a continué à travailler beaucoup avec Talbot et à correspondre beaucoup. Et le point intéressant, c'est que certains lui ont stupidement reproché, c'était que lui ne s'intéressait pas à faire des belles photos, des paysages, des portraits, etc. Il voyait toute l'importance que la photo pouvait avoir du point de vue scientifique. Et Daguerre, lui, alors il était un peu furieux contre Daguerre en disant « Mais oui, j'arrive pas à lui faire comprendre que c'est intéressant et important, parce que ça, là aussi, c'est un moyen de mieux comprendre la lumière, etc. » Ce qui était vrai, bon, mais c'était évidemment pas ça le grand succès du daguerréotype.
Alors, au cours de votre ouvrage, vous dressez des portraits différents de Jean-Baptiste Biot, donc sa carrière, son parcours, et puis aussi l'homme. Parlons-en quand même, donnons quelques mots sur l'homme qu'était Jean-Baptiste Biot, même si à travers sa carrière et son parcours, on devine un peu les formes, les contours de ce personnage. C'est un homme qui se fait un mariage d'amour et qui partage avec sa femme ses interrogations scientifiques. Là aussi, est-ce que ça fait partie d'une spécificité de Jean-Baptiste Biot, qui est de faire partager ses interrogations, notamment à sa femme?
Bon, peut-être. J'avoue que là, je ne peux pas répondre vraiment clairement à ça, mais il est incontestable qu'il s'est marié incontestablement par amour et qu'il a été un mari dévoué, fidèle, etc., jusqu'à la mort de sa femme, qui l'a beaucoup affecté vers 1850. et il avait pris à cœur de la, c'était une jeune fille, très jeune, quand il, de la mettre à son niveau, si j'ose dire, scientifique, c'est-à-dire de pouvoir parler avec elle. Elle a appris l'allemand, elle a appris tout, et elle l'a même aidé à traduire un ouvrage de physique en allemand. Donc c'était une femme extrêmement cultivée, et tous les gens qui les ont fréquentés ont pensé qu'elle était très intéressante et tout à fait charmante. Et donc, voilà, c'était donc certainement un bon mari, un bon père de famille.
Mais est-ce qu'il avait ce souci, à travers ses interrogations, donc d'une part de s'adresser à des personnes qui n'y connaissaient peut-être pas grand-chose, pour avoir peut-être, vous voyez, des idées qui ne lui viendraient pas à l'esprit, justement parce que, et en parler justement à des personnes qui n'y connaissaient pas grand-chose, pour avoir de potentielles nouvelles idées auxquelles il n'aurait pas forcément...
Je vais vous dire tout de goût que je n'en sais rien. Sa correspondance avec sa femme, il y en a une grande partie qui est conservée à la bibliothèque de l'Institut, qui en général n'est pas sur des sujets scientifiques. Il lui dit quand même comme ce qu'il fait, quoi. Mais enfin bon, voilà, ce n'est pas une correspondance scientifique. Je n'ai pas trouvé de correspondance avec ses amis scientifiques, comme Poisson, comme Thénard, etc. Avec les Anglais, certainement, avec Brewster, c'est incontestablement. Mais là, il ne s'agissait pas de sentiments ni de parler à quelqu'un qui ne connaissait pas. C'était entre égales. Mais bon, je ne peux pas répondre à votre question.
On va poursuivre. Vous avez une partie dédiée à Bio l'orientaliste. Alors, nous sommes dans la période de l'expédition d'Égypte. Il y a dans une petite ville égyptienne appelée Dendera un zodiaque qui est retrouvé dans un temple dédié à Hathor, la déesse Hathor, et va se poser la question d'interpréter ce zodiaque. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et à quel moment Bio intervient dans cette affaire?
Voilà. Alors ça remonte à l'expédition d'Égypte, c'est-à-dire 20-30 ans avant le moment où Bio s'y est intéressé. C'était le général de Sey qui avait trouvé ça dans un temple isolé. Pour le coup, c'était un petit village d'Égypte et il avait vu, alors des gens, des savants, vivant de nom en particulier, avaient fait un dessin de ce zodiaque qui était au plafond d'une petite chapelle qui était difficile à trouver. Et ça excitait beaucoup de monde parce qu'il y avait la controverse générale. Est-ce que le monde avait été créé, comme le dit la Bible et comme le pense encore la tradition juive, c'est il y a 4 ou 5 000 ans, ou bien est-ce que c'était beaucoup plus vieux? Alors certains pensaient que le zodiaque montrait, vu la disposition des signes, et avec des interprétations plus ou moins farfelues certaines, que ça prouvait que c'était il y a 10 000 ans, 15 000 ans. Et puis d'autres disaient non, pas du tout, c'est beaucoup plus récent. C'est la période romaine, et donc c'est, puis même c'était peut-être purement des horoscopes, et pas non plus, ça ne représentait pas l'état du ciel, comme certains le présentaient. Or, Bio avait commencé à s'y intéresser, et puis il y a eu un espèce d'entrepreneur qui a décidé de faire venir le zodiaque en France. Alors, à l'époque, Mehmet Ali était à la tête de l'Égypte, et laissait partir tout pour en échange de la modernisation de l'Égypte. Donc, c'était très facile
c'était
de faire
passé comme une lettre à la poste,
c'était
ça vous
très
dire.
Facile de prendre des expéditions, etc. Donc, le Lorrain est arrivé, il a scié, découpé le zodiaque du plafond, il l'a apporté à Paris, et vers 1820, en disant d'ailleurs, écoutez, de toute façon, peut-être que c'est mieux comme ça, parce qu'avec le danger qu'il y a les fondamentalistes d'Arabie Saoudite qui viennent de se convertir au wahhabisme, ils risqueraient de tout détruire, de tout démolir, parce qu'il y a des figures humaines, etc. Bon, quand on voit Bamiyan, peut-être qu'il n'avait pas complètement tort. Et puis, voilà. Donc, il l'a amené en France, pour trois fois rien. Et là, Bio, qui s'intéressait à ça, à l'astronomie égyptienne, a convaincu Louis XVIII d'acheter ou de contribuer fortement à l'achat du zodiaque, qui d'ailleurs maintenant est au Louvre, dans la salle 12 bis des antiquités égyptiennes. Et d'ailleurs, on a remis en 1920, à peu près 100 ans après, une copie dans le temple de Dendera. Et donc, lui a essayé de comprendre, voilà, ça représente des étoiles. Il discutait avec Champollion, d'ailleurs, aussi. Ça représente des étoiles, si elles sont à tel endroit, donc ça pourrait vouloir dire que, etc. Et il avait trouvé quelque chose, il disait, oh, ça doit être 700 ou 800 ans avant Jésus-Christ. Alors, ça donnait raison aux gens qui pensaient que la Bible avait raison, mais lui, c'était pas pour ça, c'était parce qu'il voyait le... Bon. Mais seulement, il ne pouvait pas comprendre la position des planètes. Et ça, maintenant, quand on va au Louvre, on a un cartel devant le zodiaque qui explique qu'il y a un astronome et une égyptologue qui ont interprété maintenant correctement, parce qu'avec les figures qui représentaient les planètes que Bio ne pouvait pas connaître ni comprendre, eh bien maintenant, on sait exactement que ça remonte effectivement, il s'était trompé de quelques siècles, mais que ça remonte au début de l'ère chrétienne, quoi. Voilà, donc ça, c'est effectivement, c'est son côté astronome qui s'intéressait aux astronomies égyptienne et chinoise aussi d'ailleurs.
Alors justement, vous parlez des Chinois, venons-en. Vous avez une partie consacrée au rite des Zhou. Zhou, Z-H-O-U. Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les Zhou. Moi, je les ai découverts avec vous.
Alors, les Zhou sont une dynastie très ancienne de la Chine. Alors, le Zhao Li, qu'on peut traduire par rite des Zhou, est un des grands classiques chinois. C'est un des 5 textes de base que tous les lettrés devaient connaître. Alors, ça donne un tas de détails qui sont assez pittoresques, mais assez fastidieux, de procédures administratives, de savoir quels sont les gens qui font ci, qui font ça, etc. Et ça, le fils de Biao, qui était un garçon extrêmement intéressant, qui avait commencé par vouloir entrer à Polytechnique, puis qui avait dit non, finalement, je ne vais pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Il s'était instruit tout seul. Il avait fondé avec Seguin une des premières compagnies de chemin de fer, la première compagnie de chemin de fer. Puis il avait fait une, je ne dirais pas fortune, mais enfin une aisance. Et il s'était consacré à ce qui l'intéressait, c'est-à-dire il avait appris le chinois avec des meilleurs professeurs, Stanislas Julien, professeur au Collège de France, etc. Et donc il avait traduit. Il avait commencé à traduire ça, presque jusqu'au bout, et puis il est mort assez jeune, ce qui a beaucoup affecté Biao d'ailleurs. Et Biao a décidé de continuer avec, non pas, il n'était pas sinologue, mais avec l'aide de Stanislas Julien, de continuer et d'éditer ce travail. Bon, à la suite de quoi d'ailleurs, il a été élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres, où son fils l'avait précédé d'ailleurs.
Donc en 1847, Édouard Biao est élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et donc quelques années après, son père Sui est également élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres. On arrive au terme de cette émission. On n'a pas parlé de Biao, membre de l'Académie française. Donc il est élu à 82 ans. Alors à l'époque, déjà vivre jusqu'à 88 ans, c'est une prouesse. Voilà, qui n'est pas négligeable. Il est élu à 82 ans, donc fait partie des personnes élues avec l'âge le plus important. Pourquoi est-il élu à l'Académie française ?
Eh bien, parce que d'abord, l'Académie française, comme on sait, n'a pas la spécialité d'élire uniquement des écrivains. On peut élire des maréchaux, et en particulier, il y a certains secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ont été élus à l'Académie française, sans pour autant qu'ils aient une œuvre littéraire importante. L'exemple est Louis de Broglie, par exemple. Bon. Alors, il avait été, non pas secrétaire perpétuel, mais c'était un peu le doyen de l'Institut. Et surtout, il s'intéressait beaucoup, et là, il a écrit des choses tout à fait intéressantes. Il disait, il ne faut pas séparer les lettres et les sciences. Et comme il disait, on ne s'est jamais aperçu qu'on était plus savant pour être moins lettré. Là, il a écrit beaucoup de choses là-dessus, et il a été élu, et c'est Guizot qui l'a reçu, en notant bien que c'était un petit peu l'alliance des lettres et des sciences qui le permettait d'entrer dans cette compagnie.
Et donc, il y restera 6 ans avant de décéder. Il aura donc vu mourir sa femme, ses enfants, avant de s'éteindre à son tour. Merci Jean-Paul Poirier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Baptiste Biao, un savant méconnu, mais qui le sera peut-être un peu moins à travers votre ouvrage. Publié aux éditions Hermann, Histoire des sciences, en mars 2011. Et donc, à travers cet ouvrage, nous avons pu réaliser cette émission en habit vert. Merci à vous, Jean-Paul Poirier.
Merci, Elodie.